VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du mercredi 6 janvier 2016. À la une ce soir.
Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reconduit Daniel Kablan Duncan à la tête du gouvernement alors qu'il lance son deuxième mandat.
Au Burundi, début du procès des présumés putschistes du 13 mai 2015.
Toutes les parties demandent des dommages à intérêts variés entre plus de 13 milliards et 100 millions de francs burundais.
Un nouvel essai nucléaire nord-coréen au centre d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan, qui avait présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement ce matin, a été reconduit à son poste dans l'après-midi par le président Alassane Ouattara. On fait le point avec Idriss Fall.
Selon Amadou Gon Koulibaly, secrétaire général de la présidence, M. Ouattara a signé un décret portant nomination de Daniel Kablan Duncan en qualité de Premier ministre et l'a instruit de lui proposer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe rajeunie et avec plus de femmes devrait être dévoilée dans les prochains jours. L'économiste Kablan Duncan, 73 ans, est un cadre du PDCI, l'ancien parti au pouvoir, principal allié de M. Ouattara. Il avait été nommé le 21 novembre 2012 pour remplacer Jeannot Kouadio-Aoussou, écarté en raison de dissensions au sein de la majorité parlementaire. M. Ouattara avait déjà reconduit Kablan Duncan peu après sa réélection le 25 octobre. À son investiture, il avait promis la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, de renforcer le processus de réconciliation, lutter contre le chômage des jeunes et faire adopter par référendum une nouvelle constitution ivoirienne.
Au Burundi, le procès des présumés putschistes du 13 mai 2015 a été tenu ce mercredi en séance publique au centre du pays. Devant la Cour suprême, en itinérance à Gitega, le ministère public a demandé la peine à perpétuité pour tous les prévenus, mais la défense demande un acquittement pur et simple. Notre correspondant Christophe Hurunziza était sur les lieux.
Toutes les parties, forces armées burundaises, police de sécurité publique, le parti présidentiel CNDD-FDD, la radio Rema FM et autres, demandent des dommages à intérêts variés entre plus de 13 milliards et 100 millions de francs burundais. S'en est suivi le réquisitoire du ministère public qui demande une peine de perpétuité pour tous les prévenus et une peine supplémentaire de 20 ans sans qu'aucun prévenu ne soit engagé dans la fonction publique burundaise. Tour à tour, la défense des prévenus a indiqué que leur client ne doit pas être jugé collectivement car en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Quatre généraux de l'armée burundaise ont plaidé coupables, jugeant que les violences dans les quartiers contestataires avaient fait beaucoup de civils innocents pour un troisième mandat qui n'est ni reconnu par la constitution burundaise ni par les accords de paix et de réconciliation d'Arusha qui ne reconnaît que deux mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. Mais les 24 autres prévenus affirment que le ministère public n'a présenté aucune preuve pour la participation au putsch manqué. Christophe Nkurunziza, Gitega, au centre du Burundi, VOA Afrique.
En République centrafricaine, probable proclamation des résultats globaux, mais toujours provisoire, de la présidentielle du 30 décembre par l'Autorité nationale des élections. Ce soir, l'ANE a rendu public 77% des résultats consolidés. On y reviendra dans notre prochaine édition.
Annoncé en novembre dernier, l'envoi de troupes allemandes supplémentaires au Mali pour lutter contre les forces djihadistes a été décidé aujourd'hui par le gouvernement allemand. Précision, Arzuma Compaoré.
Quelques 500 soldats allemands sont attendus dans les prochaines semaines dans le nord du Mali, où ils renforceront la mission onusienne de maintien de la paix au Mali, région connaissant une recrudescence des attaques des groupes djihadistes. Les soldats allemands prévoient d'y mener des missions de reconnaissance et d'apporter un appui logistique en collaboration avec les forces néerlandaises déjà sur le terrain dans la ville de Gao. La présence allemande devra ainsi favoriser la mise en œuvre de l'accord de paix conclu par le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. La décision allemande fait suite aux derniers attentats terroristes de Paris et de Bamako qui avaient conduit les ministres européens de la Défense à se réunir pour renforcer le contingent européen. La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, avait alors annoncé vouloir renforcer l'engagement de la Bundeswehr au Mali pour soulager la France. Quelques 200 soldats allemands contribuent déjà à la mission européenne de formation des soldats maliens dans le sud du pays, nettement moins dangereux.
Nouvelles allégations d'abus sexuels commis par les forces internationales en République centrafricaine. Le chef de la mission des Nations Unies à Bangui, le Gabonais parfait Onanga Onyanga, promet des sanctions fortes. On rappelle que 4 fillettes auraient été soumises à des abus sexuels et à une exploitation sexuelle. Nous sommes venus dans ce pays pour aider une population qui est déjà meurtrie. Il est absolument inacceptable qu'un seul ou seul soldat de maintien de la paix soit impliqué dans ces actes horribles. C'est indigné parfait Onanga Onyanga lors d'un point presse à Bangui.
Présidentielle béninoise, le mois prochain, la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou pour le parti au pouvoir fait des remous. Une coalition d'hommes politiques et de syndicalistes conteste ce choix, considérant qu'il s'agit d'un parachutage téléguidé par la France. Lionel Zinsou, au neveu de l'ex-président béninois Émile Derlin Zinsou, est un banquier franco-béninois qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'ex-puissance coloniale.
Et conséquence en Afrique de la crise diplomatique opposant l'Arabie Saoudite à l'Iran, Djibouti annonce la rupture de ses relations avec Téhéran, emboîtant ainsi le pas à l'Arabie Saoudite, Bahreïn et le Soudan. Les tensions diplomatiques entre Riyad et Téhéran ont été déclenchées par l'exécution samedi en Arabie Saoudite d'un opposant et dignitaire religieux chiite saoudien. En réaction, des centaines de manifestants ont attaqué l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les puissances mondiales ont réagi négativement à la suite de l'annonce d'un nouvel essai nucléaire par la Corée du Nord. On fait le point avec Isha Sarai.
La bombe H a été testée en version miniaturisée, selon Pyongyang, ce dont doute la Maison-Blanche, qui pense que la Corée du Nord n'a pas la technologie nécessaire. Le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence sur la question ce mercredi. La Chine, partenaire commercial la plus importante de la Corée du Nord et tampon politique entre la Corée du Nord et les États-Unis, décourage depuis longtemps les tests nucléaires de Pyongyang. Le Japon procède au prélèvement d'échantillons d'air en quête des particules radioactives pouvant confirmer l'essai nucléaire nord-coréen. Les résultats seront rendus publics jeudi. À ce jour, aucune bombe H n'a été utilisée en dehors de tirs d'essai. Ces bombes seront infiniment plus puissantes que les bombes A, comme celles utilisées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945.
La coalition internationale menée par les États-Unis a tué environ 2500 combattants du groupe État islamique en décembre dans ses frappes aériennes en Syrie et en Irak. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le colonel Steve Warren, porte-parole de l'armée américaine. Le Pentagone avait jusque-là évité de donner le bilan de ses opérations. Les déclarations à la presse du colonel Steve Warren, basé à Bagdad, surviennent alors que les dirigeants de la coalition mettent l'accent sur les récentes défaites de Daesh.
Pour la première fois, les djihadistes ont exécuté une femme journaliste en Syrie. La victime, du nom de Rukia Hassan, était âgée de 30 ans. Elle faisait des reportages sur la vie quotidienne à Raqqa, bastion du groupe État islamique, en utilisant le pseudo Nissan Ibrahim sur Facebook. Son dernier message date de juillet 2015. La date exacte de son exécution n'a pas été publiée.
Au moins 20 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés aujourd'hui par des bombardements sur Damas tenus par le régime syrien et sur sa banlieue aux mains des rebelles, selon l'agence officielle Sana et une ONG. Les obus tombés sur des quartiers dans le centre de Damas ont fait également des dégâts matériels. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé que certains blessés étaient dans un état grave.
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé ce mercredi avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre les attaques ayant visé les représentations diplomatiques saoudiennes dans la République islamique. La crise entre Téhéran et Riyad a éclaté après l'exécution samedi dans le royaume saoudien d'un dignitaire chiite, Nimr al-Nimr, condamné pour terrorisme. Sa mise à mort a entraîné des manifestations et les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran ont été attaquées.
Et le royaume de Bahreïn a annoncé avoir démantelé une cellule terroriste liée aux gardiens de la révolution en Iran et au Hezbollah libanais en pleine crise entre les monarchies arabo-sunnites du Golfe et l'Iran chiite. La cellule projetait plusieurs attentats à l'explosif selon le ministère de l'Intérieur de Bahreïn. Elle était composée de nombreuses personnes dont 10 ont été arrêtées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le Soudan du Sud devient l'autre pays du café, le troisième d'Afrique après le Kenya et l'Éthiopie. Depuis octobre, Nespresso, célèbre marque de café en capsule de Nescafé, propose Soulouja, un robusta considéré comme exceptionnel, cultivé au Soudan, dans la région du Yéi, frontalière de la République démocratique du Congo. La culture du café est ancestrale au Soudan du Sud, mais les conflits qui ont ravagé le pays l'ont rendue moribonde. Le taux de croissance économique de la RDC, la République démocratique du Congo, pour 2015 est en recul et 2016 ne s'annonce pas plus dynamique. Déogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, la BCC, a annoncé le 30 décembre dernier que le taux de croissance congolais était de 7,7% en 2015 contre 9,5% en 2014. En cause, le secteur des matières premières considérablement affaibli. M. Mutombo a également brossé un portrait de l'économie congolaise. En tête, le secteur primaire, en dépit de sa contribution à 3,4% du produit intérieur brut, devant le secteur tertiaire, 3,1% du PIB, et le secteur secondaire, encore très marginal. Selon une étude récente de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire drainent en moyenne 81,7% des transferts de fonds à destination de la région, estimés à 1902 milliards pour 2013. Toujours selon l'étude, en termes de financement du développement économique, le rôle de ces transferts apparaît à tous égards.
C'était la Minute Éco. Merci Anastasie.
Les sports ce soir, c'est avec Eric Manirakiza en studio. Salut Eric.
Salut Gabi.
Football d'abord. FIFA, le prince Ali, candidat à la présidence, a qualifié Sepp Blatter et Michel Platini d'irresponsables.
Le Jordanien a dénoncé l'accord oral totalement irresponsable passé entre Joseph Blatter et Michel Platini. Le prince Ali, qui vise la présidence de la FIFA en février, se présente comme le catalyseur pour mettre de l'ordre dans les rangs.
Et suspension provisoire de Valke, ex numéro 2 de la FIFA, prolongée de 45 jours.
C'est dans l'attente du verdict final, car sa suspension provisoire initiale de 90 jours a expiré hier soir à minuit. La justice interne de la FIFA accuse Jérôme Valke, l'ancien bras droit de Sepp Blatter, d'avoir violé plusieurs articles du code éthique dans l'instance suprême du football. Le juge instructeur de la FIFA a requis 9 ans de suspension et une amende de 5 000 francs suisses, soit 92 165 euros.
L'ancien entraîneur du Bayern de Munich juge de la comme de la folie la nomination de Zidane, c'est ça, au Real?
Oui, tout à fait. Otmar Hitzfeld estime que l'ancien numéro 10 des Bleus vit seulement sur son illustre nom de joueur, relevant l'inexpérience de Zizou dans le rôle d'entraîneur en charge des plus grandes stars mondiales. Mais Zidane n'a pas de temps à perdre. Il a imposé aujourd'hui un entraînement intense pour sa deuxième séance à la tête de l'équipe. Gabi, les joueurs ont réalisé divers exercices de possession de balles et de transition offensive. Et la démonstration est attendue samedi contre la Deportivo La Corogne, 7e de la Ligue.
Oui, ils ont besoin de tout ça car récemment, le Real ne s'est pas vraiment présenté sous ses meilleurs jours, nous pouvons dire.
Ah oui, face à Valence, ils ont fait un match nul de 2 buts partout. Et c'est ça qui a causé d'ailleurs le départ de Rafael Benitez.
Parlons enfin de basket, Eric. Butler, en grande forme, offre un 5e succès de rang aux Chicago Bulls.
Les Chicago Bulls ont enchaîné une 5e victoire consécutive hier en s'imposant contre Milwaukee. 117 à 116 grâce à un Jimmy Butler, comme venait de le dire, toujours sur son petit nuage et meilleur marqueur de la rencontre. Chicago totalise 21 victoires cette saison pour 12 défaites et conforte sa 2e place de la conférence Est, juste devant le Miami Heat. Et d'autres résultats d'hier, Gabi, Atlanta a perdu face à New York 101-107. Lakers n'a pas eu la tâche facile devant Golden State 88-109. Dallas a battu in extremis Sacramento 117-116.
Et en quelques secondes, qui domine à l'ouest, qui domine à l'est?
À l'est, c'est Cleveland, Chicago, Miami, Toronto, Atlanta et à l'est, Golden State toujours, San Antonio, Oklahoma City, Clippers et Dallas.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce mercredi, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy à Washington. Place au dossier du jour, première escale, le Niger.
Plusieurs opposants nigériens sont aux arrêts depuis quelques jours, sans droit de visite, même de leur avocat. On ignore les raisons de leur arrestation, mais tout porte à croire qu'elles sont liées à la tentative de coup d'État avorté annoncée par le président de la République le 17 décembre 2015 et pour laquelle une enquête est ouverte. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les militants de l'opposition, principalement du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, sont au nombre de 4, tous des responsables régionaux, arrêtés quelques jours après l'annonce par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, d'une tentative de coup d'État avortée. Ils sont au niveau de la direction de la sécurité intérieure, un des démembrements de la direction générale de la sécurité d'État. Madame Issoufou Issaka Fatouma est l'épouse d'un de ses militants.
Depuis leur arrestation, nos époux n'ont pas pu s'entretenir avec leurs avocats en violation de la loi et ce refus a été d'une main constaté par des huissiers. De plus, le délai légal de garde à vue est largement dépassé sans que nos époux ne soient présentés au procureur. Sur la base des rumeurs distillées par les tenants du pouvoir tendant à faire un lien avec le présumé coup d'État.
Seules donc les épouses de ces 4 militants ont droit à quelques minutes de visite de leur mari par jour. Même les avocats sont interdits de visite. Situation qu'a tenu à dénoncer ce matin l'Association des jeunes avocats du Niger.
Le comportement de toutes les personnes qui, sous prétexte d'agir sur l'instruction, exécutent des ordres manifestement illégaux, en violation flagrante, le comportement de tout assermenté qui prête main forte ou s'abstient de réagir dans le strict respect des dispositions de la loi, tant nationale qu'internationale, contre ces risques certains d'insécurité et d'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens.
En dehors des 4 militants du parti de Hama Amadou, 3 autres responsables de la douane nigérienne sont arrêtés sans que l'on sache s'ils l'ont été dans le cadre de l'enquête sur la tentative du coup d'État avorté pour laquelle 9 officiers supérieurs de l'armée sont aux arrêts. Un autre militant de l'opposition, Ibrahim Hamidou, du MNSD Nassara, a lui été libéré en début de semaine pour fait non constitué après avoir passé 17 jours de prison. Mais selon des sources proches du parquet de Niamey, le procureur de la République a fait appel de cette décision. Ibrahim Hamidou était poursuivi pour participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée après une interview qu'il a accordée à une chaîne de télévision privée de Niamey au lendemain de l'annonce du coup d'État avorté par le chef de l'État. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Élections en Centrafrique, c'est le thème de Washington Forum cette semaine. Le scrutin présidentiel est déjà contesté avant même la proclamation des résultats. Fallait-il organiser ce vote coûte que coûte avant la fin de l'année? Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Ils seront lus pendant l'émission ce jeudi 19h, temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique.
Au Cameroun, le Conseil africain pour l'éthique et la citoyenneté, CAPEC, entend intensifier ses actions sur le terrain. Cette ONG trouve ses origines dans les déboires et autres manquements liés à l'éthique et au civisme observés au sein de la société camerounaise. Le Cameroun est souvent classé parmi les pays les plus corrompus au monde. John Lindon a joint à Yaoundé Jean-Marie Aboganena, président du CAPEC.
L'explication de cette désignation du Cameroun comme l'un des pays les plus corrompus peut être justifiée par l'inefficacité des organes, n'est-ce pas, mis en place par le président de la République pour combattre la corruption et toutes les autres dérives, faire en sorte que le mal est devenu endémique, d'où cette désignation récurrente du Cameroun comme l'un des pays les plus corrompus au monde.
Quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain?
Écoutez, le CAPEC est une jeune association qui a à peine 2 ans d'existence et ambitionne réaliser un certain nombre de projets, notamment des campagnes de sensibilisation pour un changement radical de comportement dans tous les segments de la vie nationale. De la présidence de la République aux derniers citoyens, nous voulons sensibiliser les uns et les autres à adopter des comportements citoyens et responsables, à abandonner toutes les pratiques irresponsables et les comportements déviants dans chaque maillon de la société afin de moraliser notre société pour qu'elle devienne une société véritablement responsable, ambitieuse, qui respecte à la fois les droits de l'homme, qui s'oppose énergiquement à la corruption et qui prône l'intérêt général, la solidarité et, bien entendu, la protection du bien public.
Comment le gouvernement camerounais en particulier réagit-il face à vos actions?
Écoutez, le gouvernement est ému par rapport à tous les fléaux qui minent notre société. Et il ne peut donc apprécier les contributions des uns et des autres dans cette lutte pour la moralisation des comportements. Ceux qui ont suivi le discours de fin d'année du président Biya ont relevé que lui-même a reconnu, et ce n'est pas la première fois, que les fonctionnaires camerounais ou encore notre administration constituent un frein au développement de notre pays du fait de l'inertie qu'il a toujours dénoncée. Donc, un manque d'éthique au niveau de notre administration, cela a été relevé par le président de la République.
C'était Jean-Marie Aboganena, président du CAPEC.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
La Gambie, proclamée État islamique en décembre par son président Yahya Jammeh, impose depuis le début de l'année le port du voile aux femmes employées dans les institutions publiques. Pourtant, le président Jammeh avait déclaré que cette proclamation n'aurait aucune incidence sur la minorité chrétienne. Il avait également mis en garde contre toute coercition envers les femmes qui en raison de leur tenue vestimentaire. Modibo Dembélé a recueilli la réaction d'Aboubakri Mbodj, secrétaire général de la RADO, rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme.
Ce n'est pas la première fois que le président gambien fasse un tel discours. Il avait, il y a de cela 2 ans, décidé de faire de la Gambie un royaume. C'est des déclarations qui le font exister parce que vous savez que la Gambie ne pèse pas lourd sur le plan international, bien que ça soit un État souverain. Nous respectons le peuple gambien. Par contre, le président Yahya Jammeh, qui est arrivé au pouvoir en 1994 par une putsch militaire, a régné avec une arme qui est l'intimidation. La majorité des Gambiens aujourd'hui qui luttent pour la liberté, la démocratie et le respect des droits humains sont devenus des exilés forcés.
Pourtant, le président Yahya Jammeh avait rassuré que la proclamation de la Gambie en un État islamique n'aurait aucune incidence sur la minorité chrétienne et la tenue vestimentaire des femmes. Qu'est-ce qui a alors changé?
Oui, vous savez que lui, il change quand il veut. Il change au gré du vent, en fonction de ses intérêts. Aujourd'hui, il se sent isolé par la communauté régionale et internationale. À l'intérieur de son pays, tous les Gambiens épris de paix et de justice ont quitté le pays, que ce soit les leaders des partis politiques, de la société civile, les militants des droits de l'homme. Ils s'attaquent même aux chefs religieux. C'est la terreur. Et c'est cette terreur-là aujourd'hui qu'il veut instituer et il proclame aussi cette république islamique pour attirer l'attention de la communauté internationale qu'il existe. Mais pour nous, les décisions de Yahya Jammeh ne méritent pas, si vous voulez, qu'on commente cela davantage.
Cette décision intervient en un moment où les États membres de la CEDEAO, dont la Gambie, essaie d'harmoniser leur politique sécuritaire de lutte contre le terrorisme. Comment expliquez-vous cela alors?
Il va au contre-courant même de l'intégration régionale. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 3 décisions qui sont pendantes devant la justice au niveau de la CEDEAO concernant la Gambie? Il ne s'est jamais exécuté. Il ne respecte jamais ses engagements vis-à-vis de la communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Il ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine. Il ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des Nations unies. Et la Gambie est à partie des Nations unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et ce que nous exigeons, c'est que la communauté sous-régionale de la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies prennent des sanctions sur le régime de Yahya Jammeh, qui est un régime d'exception, qui a démontré aujourd'hui que toutes les personnes qui aujourd'hui soit sont exécutées, d'autres sont dans les prisons et les autres qui ont eu la chance ont pris le chemin de l'exil.
C'était Aboubakri Mbodj, secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans un discours à la Maison-Blanche hier, le président Barack Obama a décidé de court-circuiter le Congrès, contrôlé par les Républicains qui refusent de légiférer sur la question des armes à feu. Monsieur Obama envisage des décrets et propositions avec comme principal objectif l'obligation du contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques avant une vente d'armes. Pour une réaction, Nathalie Barge a joint le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Il y a un problème constitutionnel à la base de cette crise ou cette situation. Est-ce que le gouvernement américain est un gouvernement de loi ou est-ce que c'est un gouvernement de décret? Et l'idée que le décret peut tout faire, une idée que Obama a opposée en 2008, il était un des autres qui a dit que Bush s'est employé de ce moyen trop. Alors il a changé complètement de vie et c'est lui maintenant qui gouverne de plus en plus avec ce moyen de décret. Et c'est la question constitutionnelle. Et c'est vrai, si un président élu et républicain, il va certainement changer tous ses décrets.
Il y a un point qu'il a pointé du doigt, hein, le problème finalement des ventes des armes par Internet. Même s'il impose ce type de mesures, de décrets, est-ce que cela pour autant pourrait régler la question des ventes par Internet?
Tout le monde est d'accord sur le fait que ce qu'il a fait hier n'est pas très important, c'est plus symbolique, mais c'est vrai quand même qu'il y a tant d'armes à feu aux États-Unis qu'un criminel qui veut acheter une arme, il n'aura pas besoin de l'Internet. Il peut le faire sur la rue, n'importe où dans les villes aux États-Unis. Il y a plus d'armes à feu qu'il y a de gens aux États-Unis actuellement.
Les morts par balles ont augmenté aux États-Unis justement depuis la tuerie de Newton en 2012. Votre réaction par rapport à cela?
Alors, je ne sais pas si c'est une tendance permanente ou si c'est un changement qui va se terminer avec d'autres tendances. Deux ou trois années n'est pas suffisant pour montrer une tendance dans ce domaine-là.
Le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Tian Wan, présentation Chérubin Dorcil et Morgane Gaillec.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.